Mardi 3 avril, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde, après une pause d'une semaine et une table ronde sur les métiers d'art qui a été diffusée ici dans le cadre du Radioton dimanche dernier à 13h30. Si jamais ça vous intéresse, vous allez sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. On vous revient en grande force avec une émission encore une fois bien remplie. En deuxième partie d'émission, on discute avec Marc Dulude au sujet de sa résidence à la Chambre Blanche qui s'intitule « Je ne suis que de passage ». On va également parler avec Dominique Savoie qui va nous faire une chronique sur l'exposition « Décharge festive d'une allégorie concave » de l'artiste Charles Fleury. On discute aussi avec Esther Trépanier qui est co-commissaire de l'exposition « Mode et apparence dans l'art québécois 1880-1945 » qui est présentée au Musée national des Beaux-Arts. Puis, on va discuter avec Raymond Poirier. Comment vas-tu?
Très bien, très bien. Et des bonnes nouvelles du côté de Montréal, cette semaine, on va en parler tout à l'heure dans la revue de presse.
Et cette semaine, en fait, Simon Roy n'était pas disponible pour la chronique. Il faut le comprendre parce que Simon, c'est quelqu'un qui est très, très, très impliqué à CKRL, qui a travaillé toute la fin de semaine sur le site Internet dans le but de le mettre à jour pour la Radiotonque. Donc, il a décidé cette semaine de nous faire comme un petit best-of de ce qu'on a entendu depuis le début de l'année 2012. Un best-of, à tout moins une sélection représentative. Donc, on va entendre des pièces de NP, d'Apollon, de Eugène K. et de Pablo Ribot, donc tout au long de l'émission. Et on va s'en mettre en oreille tout de suite. On écoute Couleur A-S-C-I-I, A-S-C, ouais, en tout cas, Couleur de NP, et la pièce, c'est 4F66. C'était un extrait de la pièce 4F66, c'est tiré de l'album Couleur ASCII, disons-le comme ça, de NP. On en avait entendu le 17 janvier dernier. Et tout de suite après, de maintenant, c'était pas facile. Et c'est mieux que je le fasse. Je cède la parole à Raymond Poirier pour sa revue de presse.
Et je mentionnais tout à l'heure, on fait des bonnes nouvelles du côté de Montréal. C'est le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui va avoir 150 ans. Son histoire est parsemée de preuves d'amour d'amateurs d'art à son égard. Et la dernière en date est venu établir un record au Québec. C'est deux grands collectionneurs montréalais, Michal et Renata Einstein, qui ont décidé de donner au musée leur collection de maîtres anciens. Alors, on parle donc de 80 œuvres et une valeur qui dépasse les 75 millions de dollars. Un don qui est à ce point important, d'ailleurs, qui entraîne un nouvel agrandissement du musée avec la construction d'un cinquième pavillon d'ici 2017. Et parmi les œuvres, pour avoir un peu l'idée de ce qui a été donné, on parle surtout de peinture, beaucoup de chefs-d'œuvre, en fait, de l'art néerlandais du 17e siècle. Par exemple, Le retour de l'enfant prodigue de Jan Steen ou Vieux savant dans son cabinet de Jan Leavens. Tous les styles, en fait, du siècle d'art néerlandais sont représentés de même que tous les thèmes. Alors, c'est vraiment un bon aperçu de cette période. Alors, ça va donner quelque chose aussi de très cohérent. Cela dit, ce n'est pas limité à cette période-là. La collection des Ornstein, qui était quand même assez vaste, il y a des peintures du début de la Renaissance jusqu'à la fin du 18e siècle. Alors, c'est intéressant. Et par ailleurs, en fait, il faut dire aussi que la valeur estimée monétaire de la collection ne mesure pas totalement l'ampleur de ce don-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il serait à peu près impossible de rassembler une telle variété de toiles de maîtres anciens. C'est une collection qui est aussi extrêmement convoitée à l'étranger, donc ça veut dire que ses propriétaires auraient facilement aussi pu la vendre à différents intérêts. Non, ils ont choisi de la redonner, dans le fond, au bout du compte, à la population, puisque c'est ça, les musées, les collections muséales, c'est de rendre à nouveau ces œuvres accessibles au grand public.
Mais c'est une belle nouvelle.
C'est une belle nouvelle et il faut dire que ça va bien aussi de manière générale pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ils ont même battu l'année dernière leur record de fréquentation. On sait qu'il y avait une campagne de musées réinventés de leur côté. Ça a dû bien marcher, toute évidence. On parle de 767 000 visiteurs entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012 et ça représente une hausse de pratiquement 200 000 personnes de plus. Donc encore là, c'est énorme. Le record précédent était de 636 000 en 2007. Alors, c'est quand même intéressant là-dessus. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que les chiffres de fréquentation annoncés, c'est pas la Saint-Jean ou le festival d'été, c'est des chiffres fiables et des données comptables. Donc, c'est pas des estimés. Les 200 000 visiteurs, donc une croissance de plus de 36 % par rapport à l'an dernier. Et donc, ça fait du Musée des Beaux-Arts de Montréal le musée le plus visité au Québec. Pourquoi? Ben, une exposition vient en guise d'hypothèse, c'est l'empereur guerrier de Chine et son armée de terre cuite qui a été fortement médiatisée. Également, on parle aussi peut-être de l'exposition La planète mode de Jean-Paul Gaultier. Alors ben voilà. Et puisqu'on parle de musée, tiens, l'idée de l'accessibilité change évidemment avec l'évolution du numérique. Et on parlait l'année dernière du lancement de la plateforme Google dédiée à l'art, le Google Art Project. Eh bien, il est passé à la vitesse supérieure. Donc désormais, si on va sur ce site, donc googleartproject.com, on peut voir 32 000 œuvres en haute résolution. L'internaute est aussi invité à une visite virtuelle de musées de 40 pays grâce à la technologie Street View, mais qui a été appliquée à la visite muséale, donc ce soit le Musée d'art moderne de San Francisco, le Musée de l'art de Bogota, le Musée de Delhi, etc., etc. Et par ailleurs, pour dévoiler justement l'an 2 de ce projet artistique, Google a choisi le Musée d'Orsay à Paris qui possède la plus grande collection d'œuvres impressionnistes au monde. Et il fait partie donc des 6 établissements français qui viennent tout juste là, de rejoindre ce musée virtuel, le plus grand musée du monde. Et donc, qui continue de grandir et de se bonifier. Alors, si on ne peut pas physiquement se rendre sur place, eh bien, à tout le moins, on peut en faire la visite virtuelle.
Et être impressionné, en fait, par la qualité des images, là, parce que si on fait des zooms, on peut se rendre même jusqu'aux craquelures là, sur la surface des tableaux. C'est très impressionnant.
Oui, en fait, c'est le genre de vision auquel on n'aurait pas accès autrement. Enfin, on peut voir l'œuvre. Ça ne remplace pas l'expérience de voir l'œuvre sur place, je pense.
Ben non.
Mais par contre, ça ajoute un autre type d'expérience, parce que c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut envisager le numérique. C'est pas une réinvention d'un mode, c'est des nouveaux modes qui viennent se greffer au mode déjà existant. Par ailleurs, on change complètement de registre et des musées, on sort dans la rue. Je suis tombé là-dessus dans le journal Le Parisien, je trouvais que c'était vraiment intéressant comme initiative. C'est en Égypte, en fait, on sait qu'il y a eu des révolutions là-bas, renversement du président Hosni Moubarak et beaucoup de manifestations par la suite. Et ce qui fait que il y a plein de murailles qui ont été dressées autour des bâtiments officiels pour éviter des débordements et autres. Ces murs-là sont évidemment remis en question par plusieurs gens dans la population égyptienne. Et les Égyptiens, avec l'appui de professeurs d'ailleurs d'histoire de l'art, d'art contemporain et autres, notamment des professeurs de l'École des beaux-arts de Louxor, qui ont décidé de recourir au street art et d'encourager leurs étudiants et étudiantes et eux-mêmes d'aller faire des œuvres sur ces murs-là en disant, ben, regardez, si on est pris avec ces murailles, eh bien, autant mieux les utiliser pour bonifier le paysage urbain à la place de le laisser détruire le paysage et peut-être en même temps profiter de ces œuvres qui viennent un peu servir de trompe trompe-l'œil, ben, pour réinventer ou redonner un accès virtuel, entre guillemets, à ces bâtiments-là. Alors, le street art qui vient donc servir le politique là-bas et qui est appuyé par donc les différentes institutions artistiques du pays.
C'est très intéressant comme initiative.
Et parlant d'initiative intéressante en lien avec le street art, je fais un petit clin d'œil. Si vous avez l'occasion d'aller à Londres dans les prochains mois, voire dans la prochaine année, eh bien, si vous avez un iPhone, allez télécharger une application qui s'appelle Street Art London. Alors, c'est donc une application qui sert de guide virtuel pour les lieux de mise en valeur et les lieux de présence de l'art urbain, donc du street art, à Londres. Il y a à peu près 280 œuvres d'art qui sont disponibles via cette application-là, donc par artiste, par date, par lieu. Et donc, ça permet, si on se promène à Londres, de savoir où sont les œuvres importantes de street art dans les environs.
Bonne idée.
Et en terminant, petite note concernant Ai Weiwei, en fait, je l'ai ressorti simplement pour l'anecdote. On parle beaucoup de cet artiste contestataire chinois. Eh bien, il a annoncé aujourd'hui avoir installé à son domicile de Pékin 4 caméras reliées à Internet. L'objectif est de tourner en dérision la surveillance constante dont il fait l'objet. Alors, il s'est dit, mais regardez, autant mieux en faire une installation disponible à tous. Alors, il s'est installé des webcams en permanence dans son appartement pour que non seulement les autorités chinoises puissent le surveiller, mais que la population en général puisse également le surveiller, puisque il dit, ben regardez, si c'est ce que le gouvernement veut, ben on va lui donner ce qu'il veut.
Quel courage quand même.
Voilà.
Ça vaut la peine de le souligner.
Et les articles, comme d'habitude, sont disponibles via l'aérospatiale.wordpress.com.
Ben, Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On t'écoute vendredi à La Vie en BD.
Exactement. On va parler, entre autres, de Carmen de Prosper de Mérimée, adaptée en BD.
On s'en va en pause audio. On écoute Apollon avec la pièce Sodia Snake. Au retour, on discute avec Esther Trépanier. On vient d'entendre un extrait de l'album Nox qu'on a eu l'occasion d'écouter le 7 février. Je vous rappelle que c'est une sorte de petit best-of des pièces qu'on a entendues depuis le début de l'année à l'aérospatiale, une suggestion de Simon Roy. Et de ce pas, en fait, on fait un petit tour au Musée national des beaux-arts du Québec. On se tourne un peu vers le passé puisqu'on discute avec Esther Trépanier qui est co-commissaire avec Véronique, je bégaye aujourd'hui, avec Véronique Bourbouen, voilà, je suis certaine de bien le prononcer, de l'exposition Mode et apparence dans l'art québécois 1880-1945. Bonjour Esther Trépanier.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Oui.
Oui, ben je vais y aller. Peut-être la question générale, en fait, la mode, apparence dans l'art québécois, qu'est-ce qui a donné l'idée de faire cette exposition-là?
Oh mon Dieu, c'est une idée qui remonte à assez loin, puisqu'elle m'est venue, entre autres, quand j'étais directrice de l'École supérieure de mode à Montréal. Et c'était... là encore, cette espèce de constat de l'hiatus, si j'ose dire, de l'écart qui existe entre ce que les historiens nous disent du Québec, qui s'urbanise, qui s'industrialise à partir du 19e siècle. Bon, vous le savez, la population québécoise du Québec est urbaine à plus de 50% à partir de 1915.
C'est surprenant, cette statistique-là, quand même.
Mon Dieu, et c'est ce qu'on nous dit. Oui, on l'oublie complètement. En 1930, 63% de la population du Québec vit dans des villes. Tatfenman, Drummondville, Québec, Montréal, etc. Ce qui atteste justement du progrès de l'urbanisation au Québec. Et la peinture et la littérature, pensons à Maria Chapdelaine, pour ne pas la nommer, à tous nos peintres du terroir québécois.
Ah, ben, c'est Walker.
Ah, mon Dieu, Clarence Gagnon, Cesar Côté, le vieux paysan et sa vieille paysanne, etc., qui ont construit une espèce d'image imaginaire du Québec, d'un Québec qui aurait été rural quasiment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et où les gens auraient été habillés en laine du pays, en ceinture fléchée, en capot de poil et que sais-je encore. Alors qu'au contraire, on le sait, quand on s'intéresse à l'histoire, les catalogues des grands magasins se rendaient dans les campagnes dès le début du 20e siècle et la mode, via les patrons, via les femmes qui cousaient, était répandue partout. Donc, ce hiatus-là, il nous interpellait. Puis là, on s'est dit, est-ce qu'il y a quelque part dans l'art dit « savant », entre guillemets, c'est-à-dire dans la peinture précisément, entre autres, aussi une autre réalité dont les artistes auraient témoigné. On s'entend, les artistes qui ont représenté l'allure de leurs contemporains ne le faisaient pas pour représenter la mode de leur temps. Non. Mais nous, on a décidé de jeter un regard à partir de la modification de la mode, de l'évolution du paraître chez les hommes, les femmes comme les enfants, dans la peinture québécoise. Et on est arrivé à cette expo que, même si c'est moi qui en suis la commissaire, je peux vous dire que je la trouve assez intéressante, à cette expo magnifique qui nous donne un tout autre portrait de l'apparence des Québécois et des Québécoises depuis le 19e siècle.
Puis en même temps, ça offre l'occasion d'apporter un autre regard sur la peinture. Habituellement, on va regarder le sujet, on va regarder les qualités esthétiques, la composition, tout ça. Et là, oui, on s'y intéresse, mais aussi on s'intéresse à ce qu'elle révèle plus précisément.
Oui,
là.
Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, la peinture, c'est quelque chose qui nous apprend quelque chose de nous-mêmes. On l'oublie aussi. C'est sûr qu'on peut la considérer d'un strict point de vue esthétique. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent surtout aux questions esthétiques vont trouver leur compte dans cette expo-là, puisqu'on va de l'art académique à l'art juste avant l'abstraction. Mais en même temps, la peinture nous renseigne sur plusieurs dimensions d'une société, et ce sont toutes ces dimensions-là dont nous avons voulu rendre compte par un regard bien précis et bien particulier, qui est celui de la mode et de l'apparence.
Puis en même temps, mais c'est vraiment donner une dimension anthropologique, une dimension historique très forte.
Oui, ça c'est quelque chose aussi qui est un souci qu'on avait, Véronique et moi. C'est-à-dire que, d'une part, ça nous permet de rejoindre des pratiques culturelles. C'est le côté un peu anthropologique. Parce que vous savez, ce qui est assez curieux, puis on en donne quelques exemples avant même d'entrer dans l'expo, c'est quand on feuillette nos albums de famille, tous autant que nous sommes, on va voir des photos du mariage de notre arrière-grand-mère ou de notre grande-tante ou d'une tante, etc. Et on se rend compte que les femmes sont toutes extrêmement élégantes, les hommes pareils, les chapeaux, et que les tenues, quand on connaît un peu l'histoire de la mode, sont tout à fait semblables à ce qu'on trouve dans les grandes villes internationales à la même époque. Donc, on rejoint des pratiques populaires, mais en même temps, on a eu le souci de témoigner aussi par des choix de tableaux différents. Donc, le public va découvrir aussi des œuvres qu'il ne voit pas souvent au CES, qui sont cachées dans les réserves des musées. Donc, on a eu le souci aussi de rendre compte d'enjeux sociaux, d'enjeux politiques qui sont derrière les questions de mode et d'apparence. Parce que, vous savez, il y a un mépris intellectuel un peu, je sais, je viens de l'université, à l'égard des gens qui s'intéressent au phénomène de la mode. Wesh, c'est de la Guinée, wesh, c'est de l'apparence, c'est futile.
Il n'y a pas de sens.
Il n'y a pas de sens. Bon. C'est sûr que la mode est soutenue par un marché énorme, je veux dire, de consommation absolument terrible, et aujourd'hui plus que jamais, mais il en demeure pas moins que la mode, comme n'importe quelle, il ne faut jamais oublier, c'est aussi une production, une expression humaine. Et comme n'importe quelle production humaine, elle nous apprend des choses sur notre histoire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'expo, juste pour vous donner peut-être quelques exemples, on va découvrir non seulement à travers les vêtements d'enfants, t'sais, on va voir plein de beaux portraits d'enfants qui nous apprennent d'ailleurs que les petits garçons avaient des robes jusqu'à l'âge de 7 ans.
Ou que les enfants étaient habillés en adultes.
Ou que les enfants étaient habillés en adultes au 19e siècle, parce qu'on considérait que les enfants, c'était des petits adultes qu'il fallait dresser, quoi, et que les petits garçons, et qu'il n'y avait pas de sexualité enfantine comme telle avant un certain âge, d'où le fait qu'on les habillait en robes tout aussi bien les gars comme les filles. Ce qui va changer, les tableaux modernes, d'ailleurs, montre un vestiaire enfantin beaucoup plus adapté à l'enfant. Mais à côté de ça, on a tenté de réunir quelques portraits d'enfants qui travaillent. C'est-à-dire pour montrer pas juste les enfants de la bourgeoisie, parce que ceux qui avaient les moyens d'embaucher des peintres pour faire faire les portraits de leurs enfants, on s'entend, avaient un certain revenu. Mais il y a eu des artistes qui ont témoigné aussi d'enfants au travail. Parce qu'on oublie trop souvent que, par exemple, dans la société québécoise, on est pareil que n'importe quelle société capitaliste. La richesse va s'élaborer sur le travail des femmes, des enfants. Rappelons, on a une petite statistique dans l'expo, pas une statistique, mais un petit rappel dans l'expo, qu'en 1885, le Parlement à Québec, sans le besoin de voter l'acte des manufactures, ou en tout cas une loi quelconque de ce type-là, pour restreindre, je dis bien restreindre, le travail des femmes et des enfants à 60 heures semaine. On est en 1885. Ouais, hein? Et que la loi sur l'instruction obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans n'est votée qu'en 1943. Ça veut dire qu'avant, les enfants ouvriers là, de classe populaire, ils travaillent. Donc, on fait aussi écho à des niveaux sociologiques et politiques très particuliers à travers un thème qui est celui de l'apparence. On pourrait parler aussi peut-être, parce que voyez-vous, chers auditeurs, Julie a vu l'exposition avec moi. Donc, elle sait très bien, c'est pour ça que j'ai l'air de le dire avant même qu'elle pose la question. Enfin, je me souviens qu'on a beaucoup échangé autour de cette expo-là. On pense aussi, par exemple, au changement de l'apparence corporelle. Les canons de la beauté changent.
Ben oui, hein, parce que ça, c'est très, très frappant là, quand même dans l'exposition.
Ça, c'est remarquable. Vous savez, on pense souvent que la mode de la femme mince et tout est musclée, hein, bien entraînée, tout ça commence avec les années 60 et tout. Pas du tout. C'est dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, où là, on passe d'une esthétique où on valorisait la peau très blanche, la femme un peu ronde, à une femme mince, musclée, en forme, et qui va pratiquer le sport. La natation, le ski, etc., pour avoir cette structure corporelle, ces nouveaux canons de beauté qui vont permettre, entre autres, de porter ces vêtements de style garçonne. Vous savez, ce style qui se développe dans les années 20 avec les cheveux courts, les robes très droites, donc c'est plus le corset traditionnel, au contraire. Et on a des tableaux d'artistes. Jean-Paul Lemieux, qui étonne beaucoup les gens parce que c'est pas le Jean-Paul Lemieux.
Non, hein, on voit Jean-Paul Lemieux, on s'imagine les figures isolées dans des grands paysages.
Effectivement. Là, vous allez découvrir des gens à la plage, des gens en maillot de bain, même des petites pensionnaires avec les religieuses qui les surveillent. Et tous ces tableaux de plein air, de plage, etc., nous parlent de cette modification des apparences, mais nous parlent aussi, parce qu'on a été chercher quelques petits exemples dans la publicité ou les affiches, des débats qu'il y avait autour de ça. Parce que vous savez, la femme urbaine, la femme qui pratique le sport, la femme qui est soucieuse de sa taille, de sa musculature, et surtout, qui porte un maillot de bain qui découvre les jambes et les bras pour permettre le sport, ou qui porte, yache, un pantalon attribut essentiellement masculin, ça vient avec la pratique du sport qui se démocratise dans les années 20. Et ça n'a pas été sans résistance au Québec. Le clergé, pour ne pas le nommer, va faire des sermons, va écrire des lettres épiscopales, etc., dénonçant ses atteintes à la vertu fondamentale de la femme catholique, qui était la modestie féminine.
Eh bien.
Ah oui, et on a mis dans l'expo, dans des petits présentoirs, un exemple d'un maillot de bain un peu plus pudique, approuvée par la Ligue catholique féminine en 1938. La Ligue catholique avait été formée en 27 pour lutter contre l'immoralité dans la garde-robe féminine et qui était diffusée à Québec chez Paquette et à Montréal chez Dupuis-Frères, c'est-à-dire dans des grands magasins qui étaient...
Les magasins populaires, finalement.
Populaires, mais francophones.
OK, ouais.
C'est ça. Mais... Quand vous irez voir l'expo, regardez comme il faut la publicité. Vous allez bien rigoler parce que tu as le maillot un petit peu plus pudique avec la petite jupette, tout ça, puis c'est marqué maillot approuvé par la Ligue catholique féminine en vente chez Dupuis-Frères. Mais tu as un petit encart qui est marqué la cliente trouvera aussi à l'étage les maillots Hollywood Regent Jensen, qui étaient en fait les maillots qui, eux, étaient plus à la mode, disons.
Qui étaient les plus utilisés.
Et
finalement.
Qui étaient les plus portés par les femmes, il ne faut pas se le cacher.
Mais ça, c'est intéressant aussi dans l'exposition parce qu'il y aurait eu moyen de faire une exposition qui est purement chronologique, donc qui part de la décennie 1880, qui se rend jusqu'à 1945. Mais vous avez vraiment choisi autre chose, de travailler par thématique, mais aussi de faire se côtoyer les œuvres de différentes époques.
Absolument. Ça aurait été plate, franchement. L'expo chronologique, ouais. On aurait pu suivre le changement vestimentaire. Mais là, je ne sais pas, là, ça aurait eu un côté un peu... Et en 1880, et en 1890, et en 1910. Ben ouais. Alors que là, on travaille effectivement en partie par thématique, en partie par sujet, mais en faisant se côtoyer des œuvres différentes. Ce qui fait que, d'entrée de jeu, quand vous rentrez dans la première salle, vous avez une grande salle qui est en fait une espèce de présentation de l'élégance masculine comme féminine, tenue de soirée, tenue de jour, etc., tenue masculine, mais qui va de 1880 à 1940, donc qui aussi permet de voir comment les artistes aborde différemment aussi la question du tableau, de la représentation. Donc, c'est amusant parce que tu vois très bien la coexistence de styles vestimentaires différents, d'apparences de vestimentaires, mais aussi d'esthétiques différentes.
Ben oui. Hey, Esther Trépanier, c'est malheureusement tout le temps qu'on a.
Ah ben, ça m'a fait plaisir, en tout cas.
Ben, ça m'a fait plaisir à moi aussi. Donc, l'exposition « Mode et apparence dans l'art québécois 1880-1945 » est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec jusqu'au 6 mai. On n'attend pas la dernière minute. Hein.
Il reste du temps. Et si je peux me permettre, samedi le 14 avril, c'est-à-dire pas celui-ci, l'autre, à 2 heures, je fais une visite pour le grand public. Bon, je sais qu'il faut donner son nom, mais en tout cas, vous pouvez contacter le musée pour ça.
Oui, de toute façon, on va en reparler dans le calendrier à ce moment-là. Okay. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Dominique Savoie.
Chaque mardi et vendredi, les soirées de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Semblable à l'image du 89.1, le Bal du Lézard fait dans la diversité colorée. Un lieu de rencontre culturelle branchée, art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les soirées du mardi et du vendredi à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
En avril à l'Ampli de Québec, on marque l'arrivée du printemps avec la série « En avril, découvre tous les fils de l'écriture ». À ne pas manquer, jeu d'écriture avec Régis Brassard, structure et prosodie avec Mario Chénard, écrire pour l'autre avec Nelson Mainville, et aussi les contrats dans le domaine artistique avec Maître Jean-Claude Pinto, mise en marché 2.0 et l'édition musicale avec Guillaume Désiel. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1.
Les mardis soirs, écoutez CKRL, 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Joubel, l'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Oh!
Il est 18h, on entame la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Et pour entamer cette deuxième demi-heure, Dominique Savoie est avec nous. Bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Tu es allée à Lévis?
Oui, je suis allée à Lévis. J'ai traversé le fleuve pour aller voir une exposition de Charles Fleury à la Galerie Regard. L'exposition, en fait, c'est le titre « Décharge festive d'une allégorie concave », un titre qui en dit beaucoup sur l'exposition. Okay. C'est une exposition qui est en fait en vigueur jusqu'au 22 avril. Et comme le dit le titre, en fait, on s'attend à entrer dans un univers un peu excessif et chaotique. Donc, ouais. Décharge, c'est effectivement un premier terme qui correspond à l'expo.
Effectivement. Festif aussi.
Festif aussi. On pourrait même dire post-festif. Là. On dirait qu'on arrive après la fête. Puis, d'une allégorie concave, dans le fond, l'artiste fait référence un peu à l'idée de l'allégorie de la caverne de Platon. Avec justement ce surplus, cet excès de matériel qu'on peut retrouver. Charles Fleury, donc, travaille beaucoup avec la récupération d'objets grappillés ici et là, de trouver d'objets du quotidien, en fait, et qu'il accumule et crée, en fait, de nouvelles formes.
Donc, et puis qu'ils accumulent, il y en a en tabarouette.
Oui, oui, il y a ce genre d'exposition là, que tu ne fais pas le tour en 5 minutes.
Non.
Première chose, en fait, quand on arrive dans la galerie, on est confronté à une espèce d'immense portail habitation qui nous bloque le chemin carrément. Donc, on a un passage obligatoire, une espèce de...
De petit passage très, très bas.
Très bas, donc on doit se pencher, une traverse... qui nous amène dans un univers typique à la Charles Fleury. Cette traverse-là, en fait, c'est cette construction-là, on va l'appeler de même. On pourrait parler plus de déconstruction.
Oui, même Anne-Lise Griffon, dans le communiqué, parle de Merzbau, les constructions du dadaïsme.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, Charles Fleury a vraiment quelque chose de très dada surréaliste. Dès l'entrée, en fait, c'est ça. On arrive, tu as une espèce de pseudo-architecture déconstruite avec des bouts de bois récupérés ici et là.
Colorés,
de toutes les couleurs, justement. Là-dedans, il a réussi à introduire deux téléviseurs avec deux animations qu'il a créées, deux vidéo-animations. Puis, on a en plus une espèce de forêt de prismes triangulaires qui vient encore une fois nous bloquer le passage pour qu'on passe dans cette fameuse traverse. Cette traverse-là, quand on la traverse, justement, on a une pluie de confetti qui nous tombe sur le coco.
Il y en a partout.
Donc, c'est le côté festif, justement, et fait référence un peu à ça. Puis quand on arrive de l'autre côté, on arrive dans un autre univers.
Ouais.
Puis là, on est confronté avec l'excès d'objets, l'excès de choses à regarder, de détails, de couleurs, de formes. Puis, le côté un peu sale, je sais pas, justement.
Là, comme des bâtiments abandonnés, un peu de poussière. Les objets qu'on trouve dans la rue sont pas nécessairement propres non plus.
Oui, c'est ça. Souvent, c'est des bouts de bois ramassés ici et là, donc dans des endroits peut-être abandonnés, donc sont souvent brisés, cassés. Accumulation de matériel, là, des pièces de métal, des tissus, des vieux jouets, on a de tout. Puis, c'est organisé un peu aussi comme si on entrait dans une espèce de... Moi, ça m'a fait penser à une espèce de maison hantée ou encore un univers un peu clownesque, mais très glauque.
Ou encore une maison abandonnée où les habitants seraient restés là.
Oui, puis il y a quand même quelque chose aussi pas loin de l'asile psychiatrique. Là, on a des espèces de formes humanoïdes animales.
Comme des momies
puis qui fait même penser des fois à des formes qu'on pourrait retrouver dans des tableaux, justement à la Dali ou comme les surréalistes. Il y a un personnage, entre autres, qui est en chaise roulante, qui regarde une espèce d'écran qui a été constitué avec des boîtes accumulées l'une sur l'autre. Puis c'est comme, on dirait presque un faux cinéma maison.
Avec la grosse unité murale.
Exactement. Là, puis ça a quelque chose, justement, un peu de l'aliénation, de l'emprisonnement dans toute cette consommation matérielle. Puis ça donne un peu un effet un peu angoissant. On est à la fois confronté à quelque chose d'impressionnant au niveau de la quantité de matériel, qui est aussi très rigolo parce que c'est plein de formes, plein de couleurs, plein d'objets qui nous fait rire aussi.
Ben oui.
Puis en même temps, ben c'est plutôt angoissant, étrange, puis on pourrait même parler de triste, justement, avec cette idée de... Ben, moi, en tout cas, ça m'a donné cette impression-là de voir quelque chose de presque pathétique.
Ben, en fait, comme si on voyait des gens enterrés vivants dans leur consommation. Ouais. Comme si c'était comme momifié, puis qu'on arrivait comme, je sais pas moi, 200 ans plus tard, puis la télé fonctionnait encore, mais les gens étaient morts comme devant. Moi, j'ai eu vraiment cette impression-là,
côté morbide. C'est aussi. Ça, ouais. Il y a vraiment un truc très glauque là, dans son travail. Charles Fleury travaille beaucoup l'idée du collage, de l'accumulation, donc... qui veut faire encore une fois référence au dadaïsme. Et on est vraiment dans le collage absolu, autant au niveau des espèces de tableaux, des toiles qui sont sur les murs de la galerie, tout comme les structures, les espèces d'amoncellement d'objets hétéroclites. Puis en même temps, même si un peu partout dans la galerie, on retrouve des vidéos d'animation d'objets justement de toutes sortes là, qui créent une forme de collage aussi donc
ben oui, on voit visuel, sur l'une là sur le celui dont tu parlais là sur l'espèce d'unité murale là, oui. En boîte là on voit carrément des objets qui sont animés puis des personnes qui passent
couchées. Oui. Puis ben même à l'entrée aussi on a une espèce d'animation avec des masques aussi là, qui réfèrent un peu aussi à ce
côté tribal,
primitif, justement ancestral, mais en même temps qui ont quelque chose de le rite initiatique, donc les passages obligés. Puis ces masques-là sont animés. Puis quand on passe justement dans l'espèce de traverse, si on regarde à notre droite, on se penche un peu, on a une espèce d'œil cadre qui nous montre ces masques-là. C'est une exposition qu'il faut vraiment, je pense qu'il est vraiment à voir en fait, là, puis qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder chaque partie, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais en même temps, il ne faut pas prendre trop de temps, parce que ça a un effet étourdissant. Il y a vraiment tellement de choses, tellement de détails, que c'est bon aussi d'avoir une vue d'ensemble de l'exposition. Puis, ça devient comme un jeu, en fait. Puis le défi, en fait, ce serait peut-être plus d'y aller avec quelqu'un d'autre pour partager ensuite, échanger sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a vu.
Parce qu'on en ressent le besoin. Quand j'ai vu l'exposition, il y avait justement Annelise Griffon qui était la directrice artistique, puis tout de suite, je suis allée la voir pour parler de l'exposition. Ça a été ma première réaction.
Ben, c'est ça, moi, je suis allée avec une amie, puis c'est vraiment... tu peux pas sortir de là muet. C'est vraiment une exposition qui te fait jaser, qui te fait parler, qui te fait réfléchir aussi. Puis en même temps, ben c'est ça, il y a tellement de choses à voir qu'on va pas nécessairement voir les mêmes choses. C'est impossible de tout regarder d'un même regard.
Le fait qu'il y ait tant à voir, moi, je trouve que c'est un petit côté quand même baroque, hein, dans l'idée de la surcharge, ben, dans l'idée des couleurs. Tout ça, là, moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux, cet aspect-là.
C'est quelque chose que Charles Fleury explore beaucoup. Depuis quelques années, en fait, depuis sa maîtrise, peut-être avant même, j'ai pas vraiment connu son travail avant, mais son côté très baroque, justement, excessif, là, il est effectivement pas très théâtral, oui. Puis, c'est des objets qu'il accumule aussi depuis de vraiment longtemps. Puis, c'est drôle parce que j'étais à l'exposition avec quelqu'un qui le connaît, puis on était capable de reconnaître des objets qui nous avait déjà appartenu, puis qu'on lui avait donné, en fait. Là. C'était drôle de les voir dans un autre contexte.
Ben oui, c'est ça.
Donc, c'est plutôt divertissant. Mais comme je le dis, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, il y a tellement un côté, justement, angoissant et puis vraiment étrange. Il y a une forte impression qui se dégage à l'exposition. Que j'étais, effectivement, le besoin d'en parler après s'est fait sentir assez vite, là, parce que ça m'a déstabilisée. Je m'attendais un peu à ça, mais pas autant. Ouais. C'est vraiment le côté excessif là, qui travaille.
Mais c'est excessif, mais moi, ce que j'ai trouvé bien quand même, c'est qu'il y a quand même une organisation dans le tout. T'sais. Esthétiquement, c'est très, très cohérent.
Ben oui.
C'est pas juste des amoncellements comme ça qui n'ont pas de sens, qui sont juste à poser. Il y a quand même un rythme, il y a des espaces dégagés.
Oui, mais il y a quand même, c'est comme il y a un chemin qui est proposé. Ça fait un peu labyrinthique, mais en même temps, on le voit qu'il nous mène vers quelque chose. Puis, tu sais, on n'est pas perdu tant que ça non plus là-dedans. Là. Donc, il y a une forme d'organisation, puis il y a des liens. Quand tu regardes comme il faut, il y a des liens d'une place à l'autre. Il y a des formes qui reviennent fréquemment. Entre autres, je pensais à la forme du primate, l'espèce de singe qui revient sur les tableaux, qui revient dans les vidéos, dans la forme carrément sculpturale aussi.
Dans l'évocation que ça a pour l'humain.
C'est ça, de l'évolution humaine. Puis en même temps, c'est ça, c'est comme une réflexion sur justement les différentes étapes de l'évolution, puis jusqu'où ça peut nous mener.
Oui, c'est ça. Donc, parce que l'évolution est toujours positive. Hein?
Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, il y a des formes, parce qu'il y a des collages sur les murs, il y a des peintures à l'entrée, des peintures, il y a des sculptures, il y a de la vidéo, il y a de l'architecture. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder, mais il y a un lien entre chacune. Si ce n'est des fois la couleur, si ce n'est la technique aussi qui peut revenir et qui peut... nous lier avec le contenu. Donc, c'est quand même assez complet et complexe.
Et efficace.
Efficace, absolument. Je la conseille à tout le monde, en fait, puisque si les gens ne sont pas accoutumés avec, avec l'installation, la discipline installatoire, ben en fait, ça, c'est vraiment une belle expérience à vivre. Puis, ça demeure accessible aussi. C'est pas hermétique comme exposition. Puis, comme il y a un petit côté, justement, rigolo, ça rend la chose beaucoup plus ouverte, beaucoup plus accessible pour le public. Puis, en fait, c'est une œuvre quand même très intéressante aussi au niveau du contenu.
Bien, Dominique Savoie, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Donc, on discutait de décharge festive d'une allégorie concave de Charles Fleury. C'est présenté jusqu'au 22 avril à la galerie Regard. On s'en va en pause, on écoute Eugène K. Au retour, on discute avec Marc Dulude. vient d'entendre un extrait de la pièce Drone Fish. C'était Eugène K. qu'on avait eu l'occasion d'écouter le 14 février, donc à la Saint-Valentin. C'est une, pas tellement de musique d'ambiance amoureuse, mais bon, c'est le best-of, un petit rappel là, de différents albums qu'on a écoutés tout au long de l'émission depuis le mois de janvier. Et là, on passe dans un autre univers puisqu'on se rend à la Chambre Blanche pour discuter avec Marc Dulude. Bonjour.
Bonjour.
Tu es présentement en résidence. Résidence, tu l'as intitulée « Je ne suis que de passage ».
Ben voilà, c'est ce que c'est.
C'est ce que c'est, hein? Je passe et je vais, oui.
Voilà.
Peux-tu nous parler un peu de ton projet de résidence? Parce que c'est une résidence de recherche là, que tu es en train de faire.
Oui, en fait, c'est une invitation de la Chambre Blanche. La résidence, elle a débuté le 12 mars et elle terminera le 22 avril. En fait, initialement, la résidence, c'est toujours le cas. C'était l'idée de l'atelier, en fait. L'idée de l'exploration. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce contexte-ci, résidence in situ, c'est on a un moment, en fait, pour pouvoir faire de la recherche, en fait, ce qu'on n'a pas nécessairement à soi quand on est chez soi ou ce qu'on a l'espèce de réalité quotidienne qui nous envahit. Donc, à la résidence, à Chambre Blanche, ce que je fais, je suis comme en fait une espèce de pieuvre. Si vous venez me voir à la Chambre Blanche, vous allez constater la façon que j'ai occupé l'espace de la galerie, puisque j'occupe l'espace de la galerie au rez-de-chaussée. Donc, il y a comme dans la salle d'exposition, il y a comme deux espaces. Il y a un espace qui est plutôt atelier et un espace qui est plutôt présentation des objets, des expériences et des exercices que je réalise pendant cette résidence. Donc la résidence en soi, c'est que ça joue sur l'idée des phénomènes. Donc, sur le principe ou ce que... comment je pourrais m'expliquer? En fait, l'idée des phénomènes, c'est pas d'aller chercher le phénomène comme exemple de l'eau avec du sel sur du bois avec le temps, ça va se cristalliser. Mais c'est un peu dans cet esprit-là. Ce que je fais, en fait, c'est des objets qui soit utilisent cette idée du phénomène où ce que je peux construire un objet ou, par exemple, je vais faire des dessins à partir de cristaux sur des feuilles de papier. Ça, c'est un des premiers exercices ou études que j'ai fait lors de cette résidence. Donc, il y a un papier qui est plongé dans une solution. Je ne sais pas à quoi s'est constituée la solution. Puis avec le temps, en fait, les cristaux vont monter, ils vont se former, mais par osmose, donc à l'intérieur de la matière et par capillarité, donc sur la matière en soi, pour construire ces objets, ces univers, en fait, ces dessins de couleur, de matière, mais de couleur aussi. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, cette résidence-là, en fait, ce que ça me permet de faire, c'est d'essayer d'étudier, de les voir, en fait, ce que je peux aller... ce que je peux aller chercher ou tendre à faire avec cette matière-là. Donc là, je travaille avec le sel, l'eau, avec les cristaux. Et donc tout ça, c'est dans le lien du... En fait, avec le lien du temps. Donc,
ben oui, parce que là, on est vraiment dans la durée. Là, c'est pas du jour au lendemain ou en termes d'heures là, que ça se fait.
Ouais, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que dans ce cas-ci, c'est que comme en fait, dans ma tête, j'ai deux types de projets. Si j'ai le projet qui se réalise avec le temps, donc ça prend quand même quelques semaines avant que les objets puissent se construire. Puis même à ça, en cours de route, je les modifie, je les traficote. Mais parallèlement à ça, je suis en train de faire aussi une étude, une recherche sur en fait des sculptures qui se font en point quelques fractions de seconde.
OK.
Donc je vais essayer d'imager en fait mes mots. On voit une ballonne d'eau qui est déposée sur un objet. Donc la ballonne d'eau, mettons une ballonne de latex avec plein d'eau, une fois qu'elle est déposée sur l'objet, ben la ballonne va épouser la forme à laquelle elle est déposée. Donc, moi, je pète la ballonne, mais pendant ce moment-là, je le filme, en fait. Bien entendu, j'ai pas une caméra haute vitesse, mais je le filme. Puis, ce que je fais, en fait, c'est que j'essaie d'aller chercher ce moment où, une fois que la ballonne pète, la membrane de plastique ou plutôt de latex se retire et il y a seulement la forme qui apparaît, mais la forme qui épouse, en fait, les objets à laquelle elle était déposée.
Donc, on est vraiment dans un art ultra éphémère.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, c'est les voies que j'explore présentement.
Puis on est vraiment aussi, tu sais, dans ce que tu fais, on est à mi-chemin entre comme la manipulation humaine et le travail de la nature. Là. Ça semble aussi présent assez oui, dans en fait, ta démarche.
C'est ce qui est fascinant dans ce cas-ci, c'est que la balloune, en fait, elle existe parce que nous, en fait, l'être humain, on n'est pas assez, je ne sais pas dire évolué, mais on n'a pas cette capacité de voir ces choses-là. Donc, dans un côté, on peut, en fait, je le fais un peu à la vitesse de la tortue avec le sel. Les objets peuvent se développer, puis là, que les gens peuvent prendre le temps, soit venir de journée en journée pour voir le développement des choses. Ou, à l'opposé, il y a cet objet que j'essaie de révéler aux gens pour que je puisse leur, justement, leur faciliter la chose. Et peut-être aussi de révéler ce qu'on n'est pas capable de voir, en fait, ce que peut-être qu'on ne peut pas prendre le temps de voir aussi.
Une certaine poésie aussi là, dans tout ça, quand même.
Oui, ben oui, mais en fait, mes objets sont quand même esthétiquement beaux. Ben, dans l'idée du beau, qui fait plutôt référence à la nature, en fait, un ouais. plus. Mais c'est pas... ça vient pas de l'ordre de la représentation, c'est plutôt dans l'idée de l'abstraction. C'est exemple, le projet que j'ai fait, ben, je vais faire un parallèle avec un projet que j'ai fait à Montréal.
Oui.
Qui est, ben, en fait, les gens peuvent le voir sur mon site web. Là,
oui, il y a vraiment beaucoup de documentation.
Oui, c'est ça. Donc, sur le projet en fait, que j'ai fait, c'était devant le métro Montréal, puis c'était l'idée de la montagne qui s'envole, en fait. C'était une roche qui était sur des miroirs. En fait, il y a beaucoup de travail du miroir dans ce sens-ci, ce que j'ai pu constater. Puis, en fait, une fois que la roche était fixée sur le miroir, on avait l'impression qu'elle lévitait, en fait. Puis, ce que j'aimais bien, c'était cette espèce d'imaginaire là, qui nous rappelait Magritte. Donc, oui, c'est ça, je trouve ça assez séduisant. Ben, il y a aussi, je travaille aussi les objets cinétiques. Peut-être que ça, c'est des choses que vous pouvez voir aussi sur mon site web. C'est comme je dis, c'est toujours dans l'idée de l'abstraction. En fait, j'aime mieux que les gens puissent imaginer. Ouais. Donc, je ne le représente pas. Je ne représente pas la nature en soi. Je donne des pistes. Même à ça, les gens peuvent dire, « Ah, ben voyez-vous, moi, ça ne me fait pas nécessairement penser à ça. » Mais c'est ça que je joue tout le temps dans l'idée du spectateur où c'est que, bon, mais je travaille un peu pour les autres. Pour moi aussi, mais...
Comme si c'était vraiment à cœur la relation du spectateur avec l'œuvre.
Ouais, en fait, c'est peut-être un reste d'art relationnel que j'ai encore.
Oui, mais tu sais, on est marqué par toutes les différentes avenues qu'on prend. Hein?
Oui, tout à fait.
Dans ton travail aussi, c'est ça, depuis tout à l'heure aussi, tu parles, puis on sent qu'il y a beaucoup l'idée de l'expérimentation, comme si dans ton travail, tu faisais beaucoup d'expériences pour voir ce que ça va faire ou pour le plaisir aussi d'essayer les choses. Je pense que tu disais que quelqu'un pourrait te dire comment le faire. Mais t'as mieux le faire par toi-même oui. Puis apprendre en le faisant.
Ben en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est le cas. Vois-tu, je suis en train de travailler avec de la porcelaine. J'utilise des objets en argile que je vais faire cuire en porcelaine. D'ailleurs, je remercie l'atelier du 3/5e qui est juste à côté ici pour l'utilisation de leur four. Mais c'est ça, c'est de l'art traditionnel, c'est de l'artisanat en soi.
De métier d'art.
Métier d'art, voilà, parce que c'est la connotation que un certain milieu lui donne. Mais moi, je veux toucher, je veux essayer, je veux le faire par mes propres mains, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est qu'on fait des découvertes, on a des rencontres. En fait, c'est l'idée comme sans forgeant qu'on vient forgeron. Ben, dans ce cas-ci, je ne veux pas être forgeron, mais je veux, en fait, être capable d'avoir le plus de... pas de compétences, mais d'options.
De connaissances,
d'options devant moi, qui peut-être un jour va me permettre de dire, ah, ça pourrait être intéressant si je pouvais faire ce type de truc, je sais pas, ce type d'objet en utilisant la porcelaine avec des produits de moulage ou des aciers ou peu importe. Donc, on comprend l'idée. Mais oui, c'est ça. Fait que ça me permet justement d'avoir un espèce de sac, un touche-à-tout finalement.
C'est ça que j'allais dire. C'est vraiment un touche-à-tout. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Différents horizons complètement aussi.
Ben en fait, il y a un rapport avec la vie, parce que c'est un de mes amis qui me faisait remarquer ça, parce que moi, j'ai fait mes études à Chicoutimi, donc je suis d'origine du Saguenay. Puis, en fait, c'est le rapport en fait que moi, j'ai par rapport à la pratique artistique, c'est toujours un travail qui est plutôt de l'ordre de l'exploration, pardon, où ce que l'objet en soi, oui, il y a une idée, Mais en fait, elle est là au début, mais après ça, c'est l'expérience qui joue. Ouais. C'est la façon qu'on va le travailler, ou c'est la façon qu'on va le réfléchir, ou c'est la façon qu'elle habite ou qu'elle nous habite dans la société aujourd'hui.
Eh bien, Marc Dulude, merci beaucoup. C'est malheureusement le temps de terminer l'émission.
Merci à vous.
Donc, je le répète, la résidence de Marc Dulude, je ne suis que de passage, est en cours à la Chambre Blanche jusqu'au 22 avril. En terminant l'émission, ben, vous savez, je vous donne toujours un peu des événements de la semaine, mais comme il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, j'ai manqué tous les vernissages, je n'ai pas pu vous les annoncer. Mais si ça vous intéresse, mercredi, demain, en fait, à 19h30, il y a une conférence sur... qui s'appelle « Art actuel et tradition dans le cadre de À ciel ouvert, le nouveau plénérisme ». Et jeudi 5 avril à 17h, il y a le vernissage à l'exposition « Phosphore » de Mireille Lavoie qui est présentée à la galerie Le 36. Donc, je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver l'émission en balado-diffusion sur le site laérospatiale.wordpress.com, les liens également pour la revue de presse, toutes sortes de communiqués. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous laisse avec Gilles Chaumet des Folk d'Amérique. Merci.